Bonjour Marion, merci. Il est 9h10 à Port-au-Prince, 2h de moins à Saint-Georges, dans l'Utah. Saint-Georges, ville américaine qui a poussé au milieu du désert, ville qui voudrait bien détourner l'eau du lac Powell pour arroser ses greens de golf. C'est notre dossier en cette journée mondiale de l'eau. Un mur à la frontière entre Haïti et la République dominicaine pour stopper l'immigration illégale. C'est le projet du nouveau président dominicain. Dans une quinzaine de minutes, comme chaque jour, bien sûr, le journal de l'Outre-mer. C'est avec vous, Tiziana Maron. On va parler de la campagne de vaccination contre le Covid en Guyane.
Oui, une campagne qui s'accélère, notamment dans les villes frontalières du Brésil. Les explications dès le début du journal.
À tout à l'heure, Tiziana, et bienvenue à tous. Les immenses roches rouges qui le surplombent, ses eaux bleues en font l'un des paysages de l'Ouest américain les plus photographiés. Le lac Powell, aux États-Unis, deuxième plus gros réservoir d'eau du pays, alimenté par le fleuve Colorado. On vous en parle aujourd'hui, donc, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Le lac Powell, qui ne va pas bien, son niveau baisse à cause de la sécheresse. Et voilà qu'un projet de pipeline pour alimenter en eau une ville en pleine expansion au milieu du désert le menace encore davantage. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Mickaël.
Vous vous êtes rendu dans cette ville sortie de nulle part. On écoute votre reportage et on se retrouve après pour en parler.
Bienvenue à Saint-Georges, paradis pour retraités, niché en plein désert de Mojave. Un climat agréable, des résidences paisibles posées le long de grandes avenues bordées de palmiers et une dizaine de terrains de golf entourés de falaises de roches rouges.
C'est fantastique de vivre ici, très agréable. Et puis, il y a le golf.
Rick, 72 ans, remonte sur sa voiturette de golf, le moyen de transport privilégié ici. Pour que les greens restent bien verts, les terrains sont arrosés même en pleine journée. Ce comté, en pleine explosion démographique, est l'un des plus gros consommateurs d'eau du pays, rappelle Iris, une autre retraitée.
On gaspille l'eau ici. On utilise plus d'eau qu'à Las Vegas.
Plus de 1200 litres d'eau par jour et par personne. Pour les autorités locales, la petite rivière Virgin ne suffit plus à étancher la soif de Saint-Georges. Elle demande donc la construction d'un pipeline de 220 km pour puiser l'eau du lac Powell, l'un des plus grands réservoirs d'eau douce du pays. Le projet divise car le niveau de ce réservoir creusé dans le lit du Colorado a dangereusement baissé. Les lignes blanches sur la roche témoignent de son assèchement.
Mais pour le directeur de la compagnie des eaux de Saint-Georges, il n'y a pas de plan B.
Sans ce pipeline, adieu les arbres, l'agriculture ou encore le développement de la ville. Et l'Utah a le droit de puiser davantage dans le Colorado, comme y autorise un vieux traité qui partage l'eau du fleuve entre 7 États de l'Ouest américain. Mais de l'attitude de l'Utah, qui se sert parmi les premiers, dépend l'approvisionnement de millions d'habitants en aval qui, eux, ont fait des efforts pour être moins gourmands en eau, comme l'explique Zach Frankel, le patron de l'ONG Utah Rivers Council.
Les habitants de l'Arizona et du Nevada font des économies pour éviter de tirer plus d'eau du lac Mead en aval du lac Powell. Ce projet de pipeline va détourner l'eau qu'il alimente. C'est une insulte aux efforts fournis par ces États ces dernières années.
Des États qui menacent aujourd'hui de lancer des procédures judiciaires si l'État fédéral approuve ce projet de pipeline sans les consulter.
Votre reportage, Marie Normand, que vous avez tourné avec Julien Boileau, il permet d'évoquer donc plus largement cette réalité qui est la crise de l'eau dans l'ouest des États-Unis. Marie, une crise qui touche donc le grand fleuve Colorado et ses deux lacs artificiels, le lac Powell au nord et le lac Mead au sud.
Oui, et ce n'est pas nouveau, Michael. Cette région, elle en est à sa 21e année de sécheresse et le Colorado en souffre. En fait, le manteau neigeux des montagnes environnantes dont il dépend fond trop vite, plutôt qu'avant. Résultat, l'eau s'évapore, elle n'alimente plus suffisamment le fleuve. J'ai rencontré devant le lac Mead, près de Las Vegas, un ranger des parcs nationaux et il m'expliquait qu'en 14 ans, le niveau de l'eau de ce réservoir a baissé d'environ 30 mètres. Et des problèmes d'eau et donc aussi des problèmes d'électricité puisque les turbines installées au niveau du barrage Hoover, un peu plus bas, ne fonctionnent plus tant le niveau du fleuve a baissé. Il a fallu installer des turbines spéciales.
L'eau du Colorado via donc ces deux lacs artificiels, mais des Powell est divisée entre 7 États américains et termine sa course au Mexique.
Oui, alors autant dire qu'il ne reste pas grand-chose pour le Mexique. C'est un traité de 1922 qui fixe ce partage. Il n'a pas été renégocié dossier depuis. Or, on le sait aujourd'hui, il se basait sur des prévisions de débit pour le fleuve bien trop optimistes. Et puis, vous imaginez bien qu'à l'époque, les taux de population n'étaient pas les mêmes. Certains États, comme le Nevada, ont vu leur population exploser en 100 ans.
Tout de même, il y a eu des discussions qui ont été engagées, ou en tout cas qui s'engagent.
Oui, un nouveau cycle de pourparlers qui a été reporté plusieurs fois en raison de la pandémie. Il pourrait définir la manière dont le système fluvial s'adapte au changement climatique. L'objectif, c'est d'élaborer une politique pour l'après 2026 qui tienne compte de ces pénuries d'eau.
Parce qu'on l'a bien compris dans votre reportage, Marie, il y a des bons et des moins bons élèves dans ce bassin du Colorado.
Oui, les grosses métropoles les plus au sud, notamment Las Vegas au Nevada ou Phoenix en Arizona, ont réduit de façon drastique leur consommation. Il y a des heures, voire des semaines où l'on n'a pas le droit d'arroser son jardin, par exemple. Il y a des amendes. Alors, les habitants sont sensibilisés en Californie aussi à ces économies d'eau. Reste que l'agriculture, très importante dans cette région, est la première consommatrice d'eau. Et c'est donc aussi la viabilité même de cette agriculture qui est en jeu. Et puis, il y a les États plus au nord, eux en pleine explosion démographique, qui pourraient faire plus d'efforts, selon les défenseurs de l'environnement. Malgré la crise sanitaire, il n'y a jamais eu autant de permis de construire qu'en 2020 dans la ville de Saint-Georges, en Utah, là où nous avons tourné ce reportage.
La crise de l'eau dans l'Ouest américain, dossier que vous signez, Marie Normand.
RFI.
Un peu plus au sud, une autre crise, celle des migrants qui se pressent par milliers à la frontière avec le Mexique.
They cannot come to the border. The border is closed.
Ils ne peuvent pas venir, la frontière est fermée, a répété hier sur toutes les chaînes américaines le secrétaire à la sécurité intérieure. Ne venez pas. C'est aussi la une du site d'info The Hill, Arim Lipold.
Oui, bonjour Michael. Selon The Hill, Alejandro Mayorkas a effectivement défendu la politique de son président Joe Biden, qui est accusé, vous savez, par les républicains, mais aussi par certains démocrates, d'avoir créé un appel d'air à la frontière mexicaine avec de plus en plus de migrants qui tentent de la traverser pour venir aux États-Unis. Il y a quelques jours, il avait reconnu que le nombre de migrants arrivant à la frontière a été le plus élevé depuis 20 ans, une situation, Michael, qui a fait aussi réagir l'ancien président Donald Trump. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de maintenir en mode pilote automatique un système qui fonctionne bien, a fait savoir Donald Trump, des propos repris aussi par le site d'information The Hill.
Dans l'actualité également. La voix de Guillermo Lasso, candidat conservateur du second tour de la présidentielle le 11 avril prochain en Équateur. Il affrontait hier à la télé dans un premier débat l'autre qualifié, le choriste Andrés Arauz Arim.
Oui, un débat qui était déjà un événement en soi, écrit La Hora, car le quotidien rappelle que cela faisait 37 ans que les deux finalistes ne s'étaient pas affrontés devant les caméras. D'après El Universo, l'échange tournait notamment autour de la situation sanitaire. Les deux candidats ont promis, s'ils étaient élus, une campagne de vaccination rapide. Elle sera gratuite et universelle, a ajouté le socialiste Andrés Arauz, alors que son rival, Guillermo Lasso, a assuré qu'il négocierait mieux la disponibilité des vaccins.
La crise sanitaire qui a aggravé en Amérique latine la crise sociale. Au Brésil, par exemple, où 40% de la population vit de l'économie informelle, l'extrême pauvreté s'est accrue. Les aides d'urgence du gouvernement se sont arrêtées. Les associations ont dû prendre le relais, comme à Rio, où sont organisés des petits déjeuners solidaires. Reportage Sarah Cozzolino.
Pour arriver au stand de nourriture, il faut faire une longue file qui tourne au coin de la rue. Michael est vendeur ambulant, mais depuis un an, il ne gagne quasiment plus rien.
Cette initiative fait mieux que le gouvernement, mieux que la mairie. Qu'est-ce qu'ils font pour ceux qui sont dans la rue? Au moins ici, je peux prendre un petit déjeuner.
Angela vivait grâce au recyclage, mais maintenant les immeubles ont arrêté de sortir leurs poubelles. À partir d'avril, elle pourra recommencer à toucher une aide d'urgence, mais ce ne sont pas les 40 euros du gouvernement qui vont lui permettre de manger à sa faim.
5 kilos de riz coûtent entre 5 et 6 euros. Une bouteille d'huile, c'est 2 euros. Alors expliquez-moi, comment je fais pour nourrir mes deux enfants pendant un mois avec 38 euros?
De l'autre côté du stand, Isabelle distribue les cafés chauds. Avec ses deux masques en tissu qu'elle a superposés, elle craint autant le virus que la pauvreté.
Tous les dimanches, il y a plus de monde. On était d'ailleurs en train de se dire qu'il faudrait trouver un moyen de s'agrandir, parce que là, ce n'est plus possible.
Cette vendeuse ambulante note que de plus en plus de personnes se retrouvent à la rue ces derniers mois. Selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la pauvreté touche désormais un tiers de la population. population du continent, un niveau record depuis 12 ans. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et du Brésil, on part au Venezuela. À Rime, les Vénézuéliens sont à nouveau confinés pour 2 semaines.
Oui, la Semaine Sainte en quarantaine, titre le journal El Periodiquito de Aragua. Le quotidien cite le président Nicolas Maduro qui a annoncé les nouvelles restrictions hier en soulignant notamment la progression du variant brésilien sur le territoire vénézuélien. Nous sommes confrontés à une deuxième vague, a ajouté Nicolas Maduro, selon lequel la capitale Caracas se trouve dans une situation critique. Dans le journal El Nacional, les médecins tirent la sonnette d'alarme. Cette pandémie touche un pays déjà détruit, selon l'ONU. Médecins Unis du Venezuela.
La pandémie qui progresse aussi au Chili arrive malgré une vaccination tambour battant la plus efficace de la région.
Oui, pour la première fois, le nombre de nouvelles infections quotidiennes a dépassé le seuil des 7000 ce week-end, Michael, ce qui inquiète fortement les autorités qui ont décidé du coup de reconfiner d'autres communes de l'agglomération de Santiago, en plus de celles déjà placées en quarantaine. C'est à la une du journal El Mercurio. Le gouvernement chilien s'est donné comme objectif, vous savez, de vacciner 80% de la population d'ici le mois de juin, afin d'atteindre une sorte de d'immunité collective, étant donné la hausse des cas de nouvelles contaminations, eh bien ce serait pourtant difficile d'atteindre cet objectif, estime El Mercurio.
Arim Lipold, merci.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
On est au Canada, où les députés de l'opposition déposeront aujourd'hui une pétition pour demander au gouvernement de clarifier le rôle du pays au début des années 2000 dans l'éviction du président haïtien d'alors, Jean-Bertrand Aristide. Les élus canadiens qui dénoncent également le soutien actuel de leur premier ministre au mandat de Jovenel Moïse, Pascal Guéricola.
Contrairement au gouvernement canadien, les principales organisations syndicales du Québec ainsi que plusieurs ONG dénoncent les violations flagrantes de la Constitution et des droits humains en Haïti actuellement. Un soutien qui satisfait Franz André de la coalition Solidarité Québec-Haïti.
La question justement de la contribution des anges gardiens, donc des Haïtiens, de la société civile dans tout le contexte de sauver des vies va être là quelque temps. Donc je crois que peut-être les étoiles sont bien alignées. Haïti a finalement une attention qu'on aurait dû avoir depuis des décennies.
Le Bloc québécois, un parti d'opposition, s'implique aussi dans le dossier en déposant une pétition qui concerne une réunion secrète qui se serait tenue au Canada il y a 17 ans. Le but, obtenir des réponses du Canada pour savoir s'il s'est allié à la France et aux États-Unis pour diriger les destinées d'Haïti. Le député Mario Beaulieu.
Qu'on nous explique clairement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a comme un manque de transparence du gouvernement fédéral dans ce dossier-là.
Pascal Guéricola, Québec.
La situation en Haïti qui pousse certains à fuir et à passer côté dominicain, l'autre pays de l'île, si bien que le nouveau président dominicain veut construire une clôture pour réduire l'immigration illégale. Un projet pilote est à l'étude, mais pour le directeur de la fondation binationale Zilé, c'est un vœu pieux, il vous l'a expliqué Amélie Baron.
Edwin Parizon a été ambassadeur en République dominicaine et ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Avant même le début de cette carrière politique, il plaidait pour une gestion apaisée de la question migratoire entre les deux pays de l'île de Quisqueya. Il est donc aujourd'hui contre le projet du président dominicain de construire une clôture le long des 320 kilomètres de la frontière.
La République dominicaine est un pays souverain qui a tout le droit de contrôler les flux migratoires irréguliers à partir d'Haïti. Le mur ou la clôture qui a été annoncée par le président Binader, c'est une décision souveraine de la République dominicaine, mais en même temps, je pense qu'il faut reconnaître que les murs qui portent des barrières aux échanges entre les peuples, ils ne sont pas bien vus. Et nous autres à la Fondation Zilé, nous avons toujours eu une position contre la construction de murs qui pourraient séparer les deux pays.
Le directeur de la Fondation Zilé assure que cette question de mur frontalier est loin de faire l'unanimité auprès des Dominicains.
Il y a la lecture des secteurs ultranationalistes ouvertement anti-haïtiens. Ils ont applaudi. Cependant, le thème a quand même créé un débat très intéressant dans la société dominicaine. Parce que les groupes traditionnellement solidaires avec Haïti se sont fait entendre. Vous savez, à travers de différents éditoriaux, publications, des interventions médiatiques, même de leaders religieux, tout le monde s'est fait entendre pour dire que ce mur pourrait éventuellement nuire aux échanges permanents et intenses entre les peuples d'Haïti et de la République dominicaine. Surtout, que nous constatons, et c'est ce que nous disons nous autres à la Fondation Guinée, depuis des années, il y a une interdépendance réelle entre les communautés frontalières haïtiennes et dominicaines.
Edwin Paraison insiste sur l'importance de normaliser la migration des Haïtiens en République dominicaine, ce qu'une clôture sécurisée ne permettra absolument pas de faire, car une telle ampleur de voyages irréguliers n'est possible qu'avec la complicité des gardes-frontières.
Je dirais qu'il faudrait travailler sérieusement sur la question de la corruption, parce que pour qu'il y ait trafic de personnes, il faut qu'il y ait une complicité entre des agents du pays d'origine et des agents du pays d'accueil. À la frontière, nous avons toujours vu des passeurs. C'est eux qui sont les principaux acteurs. Ils comptent toujours sur la complicité des personnes, bien des autorités qui doivent elles-mêmes lutter contre les flux migratoires irréguliers. Et définitivement, et plusieurs expériences internationales ont démontré que lorsqu'il y a ce genre de clôture, c'est une sorte de surenchère, une augmentation du tarif du trafic irrégulier de personnes. Donc, il faudrait quand même que les autorités dominicaines puissent adresser cette situation.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Tiziana Maron, on est en Guyane où la campagne de vaccination anti-Covid s'accélère.
Oui, pour faire face à une éventuelle menace de contamination en provenance du Brésil, l'Agence régionale de santé Guyane et la préfecture ont décidé d'élargir la vaccination à toute la population de plus de 18 ans sur la zone frontalière entre Saint-Georges et Camopi. Les premières injections ont été effectuées ce week-end et plus de 300 personnes ont reçu le vaccin en deux jours. Nicolas Vignier est le médecin chargé des vaccinations à Saint-Georges. Il est au micro Guyane la première.
On va vacciner aujourd'hui, a priori, également une centaine de personnes. Là, il n'y a presque plus de place. On va malheureusement être obligé de refuser quelques personnes. Donc, on va très vite organiser des nouvelles plages de vaccination pour Saint-Georges et l'Oyapock, étant donné que maintenant, toute personne âgée de plus de 18 ans peut bénéficier du vaccin sur l'Oyapock.
Et en cette journée mondiale de l'eau, le nouveau coup de gueule poussé par les usagers de l'eau en Guadeloupe, la ressource qui manque souvent au robinet est mal gérée, selon le comité de défense des usagers de l'eau qui s'est réuni ce samedi. Ils réclament l'organisation d'un référendum sur la question du précieux liquide. Et puis on termine avec la sylvothérapie en Martinique. Cette technique fort connue au Japon consiste à puiser l'énergie des arbres, une méthode de relaxation qui fait de plus en plus d'adeptes. 70 personnes se sont adonnées à la sylvothérapie ce dimanche dans la forêt Mon Travail en Martinique. Le reportage est signé Fabrice Defremont de Martinique la Première.
Alors vous approchez de l'arbre,
vous vous imaginez que vous vous enracinez avec lui.
Nous sommes au cœur de la forêt Mon Travail. 70 randonneurs se sont donné rendez-vous pour s'intéresser à la sylvothérapie ou comment profiter de l'énergie des arbres. Patrice Guanel, coach en neurosciences appliquées.
Grâce aux techniques, avec des appareils bien précis, notamment à la NASA, on peut remarquer que tout a un champ, tout est électrique, donc tout a de la vibration, de l'énergie. Et cette énergie impacte en tout cas le corps humain et le cerveau.
Pour puiser donc cette énergie, il faut rentrer en harmonie avec soi-même et les éléments, ne pas hésiter à sentir, toucher, se déchausser et embrasser l'arbre. Rosemary, randonneuse, utilise déjà depuis de nombreuses années la sylvothérapie.
Communiquer vraiment par le biais de l'arbre, ça s'est presque imposé à moi. J'ai trouvé ça un peu normal en fait.
Alors, ne soyez pas surpris maintenant si vous voyez des personnes faire un gros câlin à un fromager, poirier pays ou manguier, au lieu d'appeler les urgences. Pourquoi ne pas tenter aussi de vous déchausser et de prendre à plein bras un arbre pour y puiser son énergie le plus naturellement possible?
Et pourquoi pas en ces temps de distanciation sociale? Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Ah oui, on peut s'approcher des arbres. Merci beaucoup, Tiziana Maron, et à demain pour de nouvelles informations des Caraïbes. Merci de votre écoute et à demain.
Radio Foot International.
Aujourd'hui, ce n'est pas un cliché, mais Idriss